Jean Cavaillès nous a laissé une œuvre philosophique importante, bien que très peu volumineuse, et le souvenir glorieux de quelqu'un qui est entré en résistance dès la première heure. Il a été en particulier cofondateur du mouvement Libération, rédacteur de son journal, et il a été à la tête du réseau de sabotage dénommé Cohorse. Au premier abord, l'œuvre philosophique de Jean Cavaillès a l'air d'avoir peu de rapport avec son engagement dans la résistance. Pourquoi je dis cela? C'est parce qu'il ne s'agit ni d'une œuvre de philosophie politique, ni de philosophie morale, ni même de philosophie générale. La réflexion de Cavaillès porte sur des matières compliquées qui entrelacent les mathématiques, la logique et la théorie de la connaissance. Mais travail philosophique et engagement plongent en fait dans une racine éthique commune qui tient à l'appartenance socio-familiale de Cavaillès et aussi à sa personnalité, personnalité d'une très grande rigueur, courage, prise de risque, capacité de décision, telles sont les grandes qualités de Jean Cavaillès. La vie et l'œuvre de Jean Cavaillès illustrent merveilleusement la maxime suivante dont j'ai oublié l'auteur. La morale n'a pas besoin d'église et la philosophie pas besoin de transcendance. Je vais, pour la commodité de l'exposé, distinguer deux époques dans la vie de Cavaillès, celle de l'étude et du travail universitaire, et à partir de 1939-40, celle de son action dans la résistance. Mais en réalité, dès la première période, Cavaillès est préoccupé par des questions d'ordre sociopolitique, d'ordre plus social que politique, et à partir de 1940, dans le feu de l'action de la résistance, il continue son enseignement. Et surtout, il rédige l'ouvrage qu'il va confier plus tard à sa sœur, dont il va confier le manuscrit, en le désignant comme son testament philosophique. Et c'est sur ce testament philosophique que je reviendrai tout à l'heure. Lucie Aubrac, qui l'a connu au temps où ils étaient tous deux professeurs de lycée à Amiens, entre 1936 et 1938, et qui le retrouve ultérieurement dans la résistance, raconte après coup qu'il était capable en même temps de concevoir un cours, de rédiger un article, de trouver un moyen de se procurer des renseignements, d'organiser un sabotage et de mettre au point une méthode de codage. Je vais donc organiser mon exposé en trois temps. Je vais consacrer quelques réflexions à la personne de Cavaillès, à son milieu, à ses intérêts intellectuels. En deuxième lieu, je vais essayer de dire en quoi son apport a été complètement original, tout à fait original, à la philosophie française d'après-guerre, d'après la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, en troisième lieu, je vais parler de son rôle dans la résistance. Donc, commençons par les premières années de Cavaillès. Cavaillès naît en 1903 dans une famille de militaires, protestantes, calvinistes, très croyantes, républicaines et dreyfusardes. Il reçoit ses premières leçons de sa mère, dont il tient aussi le goût pour la musique. Ce goût pour la musique et les arts en général, il le partage avec sa sœur Gabrielle, qui lui vouait une admiration et une affection sans bornes, et qui écrira, heureusement pour nous, un livre de souvenirs intitulé « Jean Cavaillès, un philosophe dans la guerre, 1903-1944 », et qui est pour nous une des principales sources de ce que nous savons du parcours de vie de Cavaillès. Ce livre est important, il a connu plusieurs éditions, et même depuis 2012, une édition numérique sous forme de e-book proposée par Google Books. Alors on y apprend pour commencer qu'au gré des affectations de son père à Pau, à Marmande, à Mont-de-Marsan, à Bordeaux, à Saintes, à Bayonne, Cavaillès a poursuivi des études de manière un petit peu décousue, mais du même coup, il a appris à travailler tout seul. Adolescent, Cavaillès s'est intéressé à ce qui se passait pendant la Première Guerre mondiale. Il a consigné les événements dont il était témoin, malgré son jeune âge, dans un cahier qui, malheureusement, ne nous a pas été conservé. Après un double succès au baccalauréat de philosophie et de mathématiques, Cavaillès est à l'automne 1920 au lycée Louis-le-Grand à Paris, où il entre en première supérieure et en langage de normalien hippocagne. Quand il arrive à la fin de l'année, il trouve que l'embrigadement est trop sévère et trop pénible et ça ne va pas assez vite pour lui. Donc il quitte le lycée et il décide de préparer le concours à titre privé. En 1923, il est reçu à ce concours d'entrée à l'école normale supérieure. Il est reçu premier, cacique, en langage normalien. Deux lieux vont offrir à Cavaillès l'humus sur lequel il va pouvoir construire peu à peu sa pensée. Ces deux lieux sont évidemment l'école normale supérieure et aussi l'Allemagne. À l'école normale supérieure, est pour lui comme une sorte de seconde famille. Il noue des amitiés importantes avec des personnalités comme Raymond Aron, Georges Canguilhem, Albert Lotman, Georges Friedman, Jean Toussaint de Santy, Maurice Merleau-Ponty et Dominique Borne, que je mentionne aussi et surtout parce que les lettres de Cavaillès c'était Étienne Borne. C'est les lettres à Étienne Borne qui nous ont été conservées et qui sont aussi une source d'information sur, je dirais, le profil privé, intime de Cavaillès. Ses camarades aperçoivent en cet homme une personnalité très complexe et des yeux et un sourire tout à fait séduisants. Lui-même dit qu'il aime tantôt une très grande solitude et tantôt le dialogue passionnément. D'ailleurs, il s'investit dans les activités socio-religieuses de l'école et sa place de cacique lui vaut des charges supplémentaires, parmi lesquels faire des cours de mathématiques aux élèves philosophes pour les former à la philo des sciences, comme il disait. Et aussi, il est secrétaire archiviste du centre de documentation sociale tenu par Célestin Bouglet. Alors, Célestin Bouglet, dont d'ailleurs Cavaillès a prononcé l'éloge funèbre quand Célestin Bouglet est décédé, était un sociologue empirique. C'est-à-dire, il était partisan d'une sociologie fondée sur des enquêtes. Et il est possible que Cavaillès il est possible ou probable que Cavaillès ait pu lire quand même quelques-uns de ses livres. Donc j'en citerai deux parce que leur titre a une certaine résonance sur ce que a fait ou a pensé Cavaillès. Le premier de ses livres s'appelle « Les sciences sociales en Allemagne ». Il a été édité en 1912. Et le second a pour titre « De la sociologie à l'action sociale, pacifisme, féminisme, coopération », publié en 1931. Cavaillès s'intéresse aux relations franco-allemandes et à la dynamique de paix instituée par le pacte de Locarno, signé en 1925. Ce pacte était censé ouvrir une ère de confiance entre l'Allemagne, la Belgique et la France. Aristide Briand, alors ministre des Affaires étrangères, a dit « Il faut que de Locarno, une Europe nouvelle se lève. » Hélas, ce ne sera pas le cas. Cependant, après les accords de Locarno, entre les années 1928 et 1931, sont organisées les conférences annuelles de Davos, ce petit village dans la montagne suisse, Suisse orientale, où d'éminents intellectuels français, allemands et suisses échangent leurs vues. La première conférence est ouverte, entre autres, par Albert Einstein. Parmi les conférenciers invités à l'une ou l'autre des trois conférences, je vais citer pêle-mêle quelques noms, Lucien Lévy-Bruhl, Célestin Bouglé, Léon Brunschvicg, Paul Desjardins, Marcel Mauss, Jean Piaget, Lucien Febvre, Maurice Halbwachs, Hermann Kantorowicz, l'auteur des Deux corps du roi, Paul Langevin. Cavaillès a accompagné Léon Brunschvicg à la deuxième conférence qui a lieu en 1929. Il assiste, avec d'autres philosophes, à la discussion qui a lieu entre deux grands philosophes de langue allemande. D'une part, Ernst Cassirer, qui développe une philosophie critique de type kantien, mais aménagée de manière à ce qu'elle puisse s'adapter aux résultats des sciences, des dernières sciences, c'est-à-dire essentiellement la relativité d'Einstein et la mécanique quantique, et de l'autre côté, Martin Heidegger, l'étoile montante de la phénoménologie. Cavaillès écrit d'ailleurs un compte-rendu de cette deuxième conférence de Davos et qui est publié, qu'on trouve même sur Internet. Pourquoi l'Allemagne ? Pourquoi j'ai mentionné comme deuxième terroir l'Allemagne ? C'est parce que ont été déterminants pour la construction de sa pensée les séjours que Cavaillès a effectués en Allemagne à diverses reprises. Dès l'obtention de son agrégation de philosophie en 1927, il se rend dans ce qu'il appelle la patrie d'Immanuel Kant, le grand philosophe des Lumières. À la Staatsbibliothek, c'est-à-dire la bibliothèque d'État de la ville de Berlin, il découvre les travaux d'histoire des mathématiques d'un grand mathématicien du nom de Felix Klein, qui était en même temps un organisateur absolument hors pair de la diffusion du savoir, pas seulement dans la communauté scientifique, mais aussi dans le tissu social et économique. Felix Klein, je tiens à le mentionner, est à l'origine de la réforme de l'éducation qui a fait de son pays la première puissance scientifique à la veille de la Seconde Guerre mondiale. En même temps, Felix Klein est un initiateur de l'histoire des mathématiques comme discipline à part entière, à laquelle il a lui-même grandement et brillamment contribué. Cavaillès est très, très impressionné par les œuvres encyclopédiques et pointues de Felix Klein sur l'histoire des mathématiques. Elle l'incite d'ailleurs à abandonner le sujet de thèse proposé par Léon Brunschvicg sur le calcul des probabilités chez les Bernoulli pour se tourner vers l'histoire de la récente théorie des ensembles. Deux ans plus tard, en 1929, Cavaillès obtient une bourse Rockefeller dans le but d'avancer sa thèse et d'enquêter sur les mouvements de jeunesse et la crise du protestantisme allemand. Cavaillès note la division entre chrétiens allemands, qu'il paraphrase de la manière suivante, transposition religieuse du national-socialisme, et les chrétiens protestataires contre la mainmise de l'autocratie, de l'autorité politique sur la foi. En 1933, il publiera d'ailleurs un article dans la revue Esprit, sous le titre « La crise du protestantisme allemand ». Cet article et quelques autres se trouvent republiés en 1998 dans la revue Philosophia Scientiae. En Allemagne, Cavaillès s'intéresse à ce qui se fait de neuf en mathématiques et en philosophie. À la bibliothèque de Berlin, vous voyez que c'est un rat de bibliothèque, hein, Cavaillès, il rencontre un autre boursier Rockefeller que nous connaissons bien, mais malheureusement qui n'a pas survécu à un accident de montagne. Je veux parler de Jacques Herbrand, le grand logicien. Tandis qu'il est à Hambourg, Cavaillès découvre à Hambourg l'existence à Göttingen de la correspondance entre les deux créateurs de la théorie des ensembles, à savoir Richard Dedekind et Georg Cantor. Cavaillès va aussi à Freiburg im Breisgau, où il s'initie à la phénoménologie de Husserl et de Heidegger, et il lit l'œuvre de Kierkegaard, le père de l'existentialisme. Il dira de lui, dans une lettre à Léon Braunschweig, Kierkegaard pense en zigzag, et il lui manque, pour ressembler à Pascal, d'avoir été mathématicien. C'est tout dire sur un trait de la personnalité de Cavaillès. Cavaillès effectuera d'autres séjours en Allemagne, poursuivant les enquêtes sociologiques et les recherches mathématico-philosophiques. À Göttingen, il est accueilli par la grande mathématicienne Emmy Noether, éditrice des œuvres de Richard Dedekind en trois volumes entre 1931 et 1935. La coopération avec Emmy Noether aboutira à la publication de la correspondance Cantor-Dedekind dans sa langue originale, c'est-à-dire l'allemand, mais à Paris, aux éditions Hermann, dans la fameuse série des actualités scientifiques et industrielles. Cette correspondance, dominée par les discussions sur l'infini et le continu, fut traduite en français en 1960. Et son importance historique fait que les éditions Springer en préparent actuellement une nouvelle édition complétée par de nouveaux documents trouvés depuis lors. Dans les années 1930, Cavaillès connaît Göttingen au moment où Felix Klein et David Hilbert, autres grands mathématiciens allemands, ont fait de cette petite ville le premier centre mondial en mathématiques, en logique et en physique. Einstein est à Berlin. Mais c'est à Göttingen qu'est créée l'école de mécanique quantique par Max Born, Wolfgang Pauli et Werner Heisenberg. Les mathématiciens français vont aussi en Allemagne se mettre au diapason de l'algèbre moderne, synthétisée dans un fameux traité par van der Verden, qui s'appelle en allemand « Moderne Algebra », et dont le mathématicien Jean Dedonné raconte qu'il a découvert avec stupéfaction le contenu dont il ne connaissait pas une ligne. André Weil, Henri Cartan, parmi beaucoup d'autres, font aussi ce qu'on a appelé le pèlerinage en Allemagne. Ils vont à Göttingen, à Hambourg, où ils prennent contact avec un très grand professeur, Émile Artine. Ils vont à Berlin et ailleurs. C'est ainsi que se forment les idées qui donneront naissance en 1935, à Bourbaki, le groupe de mathématiciens à plusieurs têtes. Ce qui est remarquable, c'est que Cavaillès, lui, a compris les ressorts des mathématiques modernes directement par ses lectures et recherches allemandes, sans passer par l'intermédiaire des bourbakistes, avec lesquels il entretient néanmoins un dialogue fructueux, et on peut dire fructueux des deux côtés. En effet, les bourbakistes, essentiellement André Weil, lui envoient leur premier volume, le premier volume des éléments, en attendant sa réaction, puisqu'ils savent qu'il est en train de travailler, qu'il a travaillé sur la théorie des ensembles et qu'il a été en relation étroite avec Émile Noether. Une lettre du mathématicien André Weil à sa sœur, Sylvie Weil, la philosophe Simone Weil, nous apprend qu'André Weil avait beaucoup de sympathie pour les idées développées par Cavaillès en philosophie des mathématiques, des idées d'où la métaphysique est absente et qui soulignent le caractère constructif de la pensée mathématique. Cavaillès ne croit pas à l'existence d'objets mathématiques, existence pérenne et antérieure à leur construction, pas du tout. Pour lui, le mathématicien invente plutôt qu'il ne découvre. Il n'y a pas de ciel platonicien des objets mathématiques. Parallèlement, au cours de ses séjours en Allemagne, Cavaillès se rend compte de la crise économique que subit le pays. Il prend conscience de la misère, du chômage et du désarroi moral du peuple. À Berlin, par exemple, il découvre que les ecclésiastiques luthériens sont en majorité réactionnaires et que les chrétiens socialistes sont très peu nombreux. En 1931, il croit encore assez peu probable que Hitler parvienne à avoir la majorité au Reichstag. Mais bientôt, il va devoir observer l'inexorable montée du nazisme. En 1933, il écrit par exemple à ses parents que les Allemands de Thuringe ont décidé que Hitler était envoyé par Dieu à l'Allemagne et au monde pour chasser la puissance des ténèbres. Constatant avec tristesse l'embrigadement des jeunes dans l'idéologie hitlérienne et leur paganisme à base mystique, Cavaillès empoigne Mein Kampf et en lit des passages. Il perçoit dans les pages qu'il lit une prémisse de la prise de pouvoir. Là, il comprend que Hitler va arriver au pouvoir. Et en 1936, il rencontre dans la ville d'Altona des opposants au régime hitlérien échappés d'un camp de concentration. La même année, il écrit à ses parents qu'à Göttingen, cette petite ville qu'il a tant aimée, le parti de la Reichswehr est de plus en plus le maître. Je vais essayer, en second lieu, d'expliquer la philosophie de Cavaillès. Quel est le résultat philosophique des incursions allemandes de Cavaillès? Bien, Cavaillès prépare ses thèses sous la direction de Léon Braunschweig, c'est une figure que nous rencontrons souvent, et Braunschweig, avec Gaston Bachelard, œuvre à la formation d'une philosophie des sciences désignée a posteriori comme épistémologie historique. En effet, cette philosophie des sciences consiste à inclure l'histoire de telle ou telle science particulière dans un projet philosophique. Braunschweig est alors un des grands maîtres à penser de l'université. Il est professeur d'histoire de la philosophie à la Sorbonne pendant plus de 30 ans, de 1909 à 1940. Il est membre des jurys d'agrégation et du concours d'entrée à l'École normale supérieure. Pardon. Il est cofondateur de la revue de métaphysique et de morale, qui existe toujours. Il est membre actif de la Société française de philosophie, toujours active aussi. Et il fut président de l'Académie des sciences morales et politiques. Bref, ce fut un membre éminent de l'institution philosophique. Pourtant, sa sollicitude pour ses élèves ne s'arrêtait pas aux frontières de l'institution. Le dimanche matin, il recevait ses disciples pour des séances moins ex cathedra, mais assez solennelles tout de même, puisque Cavaillès les qualifie de messe brunswickoise. Il y assiste régulièrement pendant la rédaction de ses deux thèses, et on peut signaler que, outre Cavaillès, et parmi, entre autres, Georges Canguilhem et Raymond Aron ont écouté les leçons du maître Brunswick. Bien qu'ils aient à leur tour ouvert d'autres voies philosophiques, le premier, c'est-à-dire Georges Canguilhem, évoque Brunswick dans l'introduction à son livre « Le normal et le pathologique » publié en 1943, avant la mort de Léon Brunswick. Livre qui a été réédité de multiples fois et traduit très vite en anglais. Quant à Raymond Aron, qui a fait, avec sous la direction de Léon Brunswick, un mémoire sur Kant, il lui a rendu un vibrant hommage au lendemain de sa mort dans une conférence à l'Institut français du Royaume-Uni à Londres, le 28 avril 1944, c'est-à-dire avant la libération. La thèse principale de Cavaillès, méthode axiomatique et formalise, présente avec force détail mathématique des éléments pour une nouvelle théorie de la raison pure. Cavaillès met ses pas dans ceux de Kant, un des plus grands penseurs de l'humanité, écrit-il. Et il cherche à réinterpréter la critique de la raison pure par référence au dernier développement mathématique sur le continu, l'infini actuel, le calculable, le mesurable, le dénombrable. Il lui apparaît que la conception kantienne de l'intuition est à revoir. La thèse secondaire, intitulée « Remarques sur la formation de la théorie abstraite des ensembles », a une facture historique plus linéaire, mais il s'agit d'une histoire critique, dans laquelle les réflexions épistémologiques, bien que brèves et dispersées, l'emportent en intérêt sur la description pure des faits. Parmi les publications ultérieures de Cavaillès, je retiendrai deux articles importants, « La pensée mathématique », qui est le texte de l'intervention à la Société française de philosophie, qui a été faite en duo avec son ami Albert Lotman, également normalien, également philosophe mathématicien, également auteur de réflexions séminales sur l'histoire et la philosophie des mathématiques modernes, également engagé dans la résistance, également, hélas, victime des nazis. Dépourvu d'outillage technique, ce texte est d'une lecture aisée, même si une compréhension en profondeur ne saurait se passer d'un détour mathématique. L'autre texte, du collectif au Paris, est une réflexion mûrie sur le calcul des probabilités auquel Cavaillès est revenu, incité par sa découverte de la mathématisation du concept de Paris par un auteur allemand du nom de Hans Reichenbach et aussi d'autres théoriciens du calcul des probabilités. Bon, je citerai Kolmogorov pour les étrangers et Janville pour les Français, par exemple. Publié en 1939, peu avant sa mobilisation, cet écrit à l'accent pascalien et prémonitoire de la conduite intrépide du résistant que va être Cavaillès et témoigne de la cohérence profonde du penseur et de l'homme d'action. Mais le livre qui devait bouleverser la donne pour les rationalistes français de sa génération et après fut en partie rédigé durant les mois de prison au camp de Saint-Paul-des-Joux et publié de façon posthume par les soins de ses amis Georges Canguilhem et le mathématicien Charles Eresmann sous le titre « Sur la logique et la théorie de la science ». Le style de cet écrit est encore plus dense et plus elliptique que celui de ses thèses, ce qui a un temps éloigné plus d'un lecteur pressé ou trop épris d'analyticité. Mais aujourd'hui, cet écrit d'à peine 78 pages connaît un regain de popularité philosophique absolument étonnant, y compris parmi des universitaires étrangers. Deux traductions sont disponibles depuis peu, l'une en japonais, l'autre en anglais. Une troisième est en route, en tchèque. Personnellement, je suis un petit peu surprise que des étrangers se soient lancés dans le déchiffrage de ce texte difficile et parfois énigmatique, même pour un francophone. Avant de dire plus précisément en quoi consiste le programme de philosophie du concept proposé par Cavaillès dans la toute dernière page de son ouvrage, après, et cela après un périple philosophique qui, de Descartes et Kant, mène à Spinoza et Hegel, en passant par Husserl et Bolzano, je voudrais caractériser brièvement la méthode de Cavaillès et dire que même si le temps ne lui avait pas été compté, Cavaillès n'aurait certainement pas construit un système philosophique. Par réaction contre l'affirmation de normes a priori fixes et éternelles, Léon Brunschvicg enseignait une autre manière de réfléchir et de faire de la philosophie, ancrée dans l'étude de textes scientifiques. Ici, le témoignage de Canguilhem est précieux. Il écrit « Léon Brunschvicg est le philosophe pour qui nous avions le plus de considération. Il ne laissait passer aucune occasion de dénoncer la mauvaise alliance entre philosophie et système. » Cavaillès procède donc par analyse critique de textes mathématiques dont il extrait la signification pour construire sa pensée propre. Ainsi opère-t-il avec David Hilbert, avec Richard Dedekind, avec Rudolf Carnap, avec Alfred Tarski et j'en passe. Son ancrage primaire est donc non pas dans les mathématiques, mais dans les mémoires originaux de mathématiques, et son ambition est d'élaborer une philosophie capable de rendre compte des derniers développements qu'il est en train de déchiffrer. Il veut en somme greffer sur les méthodes mathématiques modernes et à partir d'elles une théorie générale de la connaissance rationnelle pure. Contrairement à beaucoup de philosophes de son époque ou postérieurs à lui, Cavaillès ne pense pas inversement que la philosophie est une influence opératoire quelconque sur la pratique mathématique. Je vais à présent donner quelques traits apportés au crédit de l'intelligence et du flair mathématique et philosophique hors pair de Cavaillès. J'en ai sélectionné 5. Le premier, je voudrais dire ceci. Cavaillès sut repérer le rôle fécond et pas seulement organisateur des structures algébriques de la méthode axiomatique. Cela bien avant que les mathématiciens Henri Cartan, Claude Chevallet ou André Weil les introduisent dans la mathématique française. Il sut distinguer, au moment où beaucoup les confondaient, un formalisme technique et qui avait cours à la fin du 19e et au début du 20e siècle, et le formalisme en un sens beaucoup plus général, inhérent à la pratique mathématique depuis ses origines. Il sut discerner très tôt la portée aujourd'hui totalement évidente et banale du point de vue sémantique introduit par Tarski. Enfin, il proposa une philosophie du concept bien avant que des philosophes comme son ami Georges Canguilhem ou plus tard Michel Foucault n'annoncent la mort du sujet et que d'autres, notamment spécialistes de sciences humaines, ne développent un structuralisme philosophique sur le modèle du structuralisme mathématique. Deuxième trait, ce théoricien de la raison pure qu'est Cavaillès se détourne tout de même de l'a priori, du transcendantal et de la problématique de la représentation. Il a fait de l'histoire une véritable méthode philosophique, suivant en cela Léon Brunschvicg, à qui l'épistémologie historique doit beaucoup. Faire l'histoire d'une théorie mathématique, entre autres, permet de substituer du fluide à de l'inerte, du changeant à de l'immuable, du substantiel à du formel vide, des contenus objectifs à une intuition insaisissable. Cavaillès aborde l'histoire des mathématiques au moment où la question de la vérité est reconsidérée à nouveau frais par les scientifiques, mathématiciens ou physiciens ou autres. Moment où l'on ne se repose plus sur l'évidence cartésienne ni sur l'infaillibilité supposée de l'intuition. Contrairement à la tendance instrumentaliste ou empiriste, celle par exemple d'un Émile Borel, qui fait dépendre la vérité d'une vérification par le fait, par les faits ou l'expérience, Cavaillès pense, pour sa part, que la vérité mathématique doit être définie en rapport avec ce qui caractérise spécifiquement cette science, la démonstration. Évidemment, de démonstration, il n'y en a qu'en mathématiques. La méthode historique de Cavaillès implique l'autonomie du mathématique par rapport à la logique, par rapport à la physique, à la psychologie, à la sociologie et aux conceptions a priori de la philosophie, qu'elle soit classique ou pas. La subordination des sciences positives à une philosophie surplombante est un des points les plus honnis et rejetés par Brunschvicg, Cavaillès, Canguilhem, Michel Foucault, Deleuze, et tous ceux qui, peu ou prou, ont constitué un rameau de l'épistémologie française du XXe siècle. Le mathématique, il faut donc le comprendre en lui-même, de manière interne, indépendamment de toute référence extérieure. Comme pour un poème ou une sonate, a écrit Cavaillès à sa sœur. C'est un devenir original, et en tant que devenir, il est radicalement imprévisible. Cependant, il existe une solidarité intime entre ces différents moments, ces différents chemins, ces différents problèmes, ces différentes méthodes. Il n'y a ni unicité de principe, ni uniformité de méthode, mais interdépendance, architecture organique et mouvante. C'est pourquoi ce devenir est aussi travaillé par une nécessité interne. Le mot de nécessité interne, l'expression, est reprise par Cavaillès à deux personnes très différentes, l'une de l'autre, mais toutes deux allemandes. D'une part, le mathématicien Richard Dedekind et d'autre part, le philosophe Hegel. Cavaillès, justement, porte une vision hegelienne de la rationalité. En ce sens que la raison, irrésistiblement, tend à intégrer les contingences et les aléas dans un projet unifiant. Pour Cavaillès, et en tout cas en ce qui concerne les mathématiques, les connexions rationnelles recouvrent et expliquent l'engendrement historique. Ainsi va la synthèse hegelienne. Elle n'a pas son origine a priori dans la perception transcendantale à la manière de Kant. Elle s'effectue, se réalise progressivement dans le cours de l'histoire. Hegel lui a donné le nom de dialectique, terme qui a fait florès, comme l'on sait. Tout simplement, il s'agit de saisir dans l'histoire même la raison de l'histoire. Cavaillès se propose donc de dégager, sous l'enchaînement contingent des inventions en apparence arbitraire des mathématiciens, des nécessités intelligibles qui ont conditionné l'apparition de notions et de concepts importants. Troisième trait, Cavaillès a donné un sens nouveau et inattendu au terme expérience. En philosophie, le terme expérience ou empirisme renvoie à Hume et à Locke. En science, le sens habituel renvoie à la physique, la biologie, la chimie, la psychologie et toute autre science expérimentale. Cavaillès avait le projet, hélas non réalisé, d'écrire un livre sur l'expérience mathématique. J'ai dit tout à l'heure que Cavaillès n'était pas un réaliste platonicien, mais il n'est pas empiriste, ni au sens philosophique du terme, ni au sens scientifique. Alors, que signifie donc pour lui expérience mathématique? Il indique qu'il radicalise le tournant de la pratique initiée par Léon Braunschweig. Il faut regarder ce que fait concrètement le mathématicien. En fait, le mathématicien expérimente, mais sur un matériau qui est déjà mathématique, parfois aussi sur un matériau extérieur. Et lorsque le matériau est déjà mathématique, il le prend à ses prédécesseurs, ses contemporains, à lui-même éventuellement, ou bien il imagine à partir des données du problème qu'il essaie de résoudre. La résolution d'un problème, écrit Cavaillès, possède tous les caractères d'une expérience. Construction soumise à la sanction d'un échec possible, mais accomplie conformément à une règle. Ainsi, un geste de mathématicien s'explique par la mathématique et non par la psychologie du mathématicien. Aujourd'hui, le monde anglo-saxon de la philosophie des sciences est en train de façonner un practical turn qui n'est pas sans rappeler, en tout cas n'est pas sans me rappeler, ce que Bachelard, Cavaillès, Canguilhem, Gilles Gaston Granger, Jules Villemin, Michel Foucault nous ont enseigné. Quatrième trait chez Cavaillès. Cavaillès a problématisé le concept d'intuition au point de le réduire à une part plutôt congrue dans la création mathématique. Mais en même temps, il s'est approprié certains thèmes du courant intuitionniste promu par les mathématiciens français Émile Borel ou Henri Lebesgue, dont il a lu, étudié les œuvres d'acclimatation de la théorie des ensembles. Et il a aussi étudié l'apport du mathématicien hollandais Brouwer. Ces thèmes confortaient son opposition au logicisme de Gottlob Frege et de Bertrand Russell. Le logicisme, c'est tout simplement la doctrine pour laquelle les mathématiques sont, en dernier ressort, réductibles à la logique. Cavaillès ne pense pas ça du tout. Kant ne le pensait déjà pas. Braunschweig ne le pensait pas. Cavaillès ne le pense pas au contraire. Il pense au contraire que la connaissance mathématique est affaire d'expérience, que le mouvement en est imprévisible, et on ne peut d'ailleurs le définir, mais simplement le poursuivre, que l'acte du mathématicien fait un avec son objet, l'objet n'est donc pas antérieur à l'acte du mathématicien, que la mathématique sont un devenir autonome, et que la mathématique est un faire, une action, non pas une doctrine. La pratique est donc un tribunal suprême. Mais Cavaillès est réservé à propos du rôle épistémologique de l'intuition et de la signification épistémologique de la vérification. Il voit les objets comme des règles de raisonnement à la manière de Hilbert et de Wittgenstein et non pas comme des produits de l'intuition. Il reproche notamment au mathématicien hollandais Brouwer d'avoir situé le développement de l'intuition primordiale dans un temps idéal, originaire, et non dans le temps de l'histoire effective. Et surtout, il ne peut pas accepter la métaphysique de la contingence qui est sous-jacente à l'épistémologie de Brouwer. Pour lui, pour Cavaillès, dans les décisions et les œuvres de raison, qu'est en particulier la mathématique, la nécessité l'emporte sur la contingence. Cinquième et dernier trait, je voudrais dire que Cavaillès a tourné le dos au théâtre traditionnel de la confrontation de la conscience au monde, le théâtre de la représentation. La pensée n'est pas pour lui représentation d'objet par un sujet. Elle est processus et enchaînement. De même que l'objet ou la chose n'est que mirage du préjugé réaliste que dénonce Cavaillès sans relâche, le sujet n'est que, je dirais, le truchement par lequel s'effectuent les opérations mathématiques. Pour caractériser les processus et les enchaînements, Cavaillès cherche donc une philosophie de la science qui ne soit ni extérieure ni antérieure à la science, mais âme de la science, comme il l'écrit quelque part. Or, selon les mathématiciens qu'il a beaucoup étudiés, Richard Dedekind et David Hilbert, les théories mathématiques naissent par formation de concepts. Il nous faut donc une théorie de ces formations de concepts. ou par un raccourci d'expression, une théorie du concept. Le grand philosophe du concept, c'est Hegel. Quand il est emprisonné au camp de Saint-Paul-des-Jours en 1943, où il a commencé la rédaction de son testament philosophique, Cavaillès demande qu'on lui apporte la science de la logique de Hegel, un énorme pavé. Le tome 3 de cet ouvrage est intitulé justement « Le concept ». Un passage de la longue introduction qui a écrit Hegel est cité à la page 5 du livre posthume de Cavaillès, dont le titre est, je vous l'ai déjà dit, « Sur la logique et la théorie de la science ». Ce passage porte sur le rapport interne entre forme et matière. Et ce passage de Hegel sert à Cavaillès à critiquer l'extériorité de ce même rapport dans la conception de Kant. En même temps, Cavaillès puise dans le système de Spinoza, qu'il a longtemps pratiqué, l'idée de l'autonomie réflexive de la pensée et du caractère autoproductif de l'idée, des idées. Une idée est réfléchie par une autre idée et le processus de réplication se poursuit indéfiniment. C'est ce qui est appelé par les philosophes l'automate spirituel. Cavaillès opère un véritable métissage entre le concept hegelien et l'idée de Spinoza. Il aperçut dans ce métissage la possibilité de rendre compte du caractère le plus remarquable des mathématiques modernes, leur capacité à s'auto-développer en faisant des opérations et méthodes d'un certain niveau théorique, les objets d'un niveau supérieur. Entre les mains de Cavaillès, ce métissage était appelé non seulement à composer une épistémologie mathématique inédite, mais encore à renverser le courant de la philosophie de la conscience, du jugement et de l'esprit, dominant depuis longtemps et de toutes parts, depuis Descartes, on peut dire, puis Kant, Husserl, dominant aussi chez Braunschweig, le maître de Cavaillès, et un temps aussi chez lui, chez Cavaillès, dans les premières thèses, quand il est encore sous l'influence directe de Braunschweig. C'était un renversement total de la perspective traditionnelle, en substituant le concept au sujet et la dialectique du concept à la problématique sujet-objet, Cavaillès a modifié de façon radicale et durable le paradigme classique de la connaissance. Et je passe à l'engagement de Cavaillès dans la résistance. Selon le témoignage de son ami Georges Canguilhem, Cavaillès ne partageait pas les opinions antimilitaristes et pacifistes de sa génération. Ben, c'était normal, puisqu'il est fils d'officier. Il ne pouvait pas être antimilitariste. Il n'a jamais été vraiment contre la guerre, mais il a eu un épisode pacifiste. En 1927, il signe, il est jeune agrégé de philosophie, il signe avec une cinquantaine d'autres élèves de l'École normale supérieure la pétition rédigée par le philosophe Alain contre l'article de la loi de réarmement qui prévoyait le rétablissement de la censure en cas de mobilisation. Quelques années plus tard, en 1934, il participe à une manifestation contre les ligues d'extrême droite impliquées dans la tentative d'assaut de l'Assemblée nationale. En 1938, il est outré par les accords de Munich. En janvier 1939, il signe, en même temps que la majorité des enseignants de l'Université de Strasbourg à laquelle il a été nommé depuis 1938, un appel contre l'antisémitisme. Cavaillès est mobilisé en septembre 1939. C'est la drôle de guerre. Janvier 40, il est nommé officier du chiffre à l'état-major. Après la bataille d'Amiens, il est capturé par les Allemands et interné dans la citadelle de Cambrai. Lors d'un transport vers un stalag, il s'échappe, aidé dans sa fuite par la religieuse responsable d'un orphelinat tout proche, et aussi par un garagiste à qui il loue une bicyclette en lui laissant la montre en or qu'il tenait de ses parents et dont il ne se séparait jamais. Il passe par la Belgique pour arriver à Lille, où ses collègues de l'université lui procurent une fausse carte d'identité. Il est démobilisé et à ce moment-là, il rejoint Clermont-Ferrand, où s'est repliée l'université de Strasbourg. Il y retrouve sa grande amie, Lucie Aubrac, et son mari, Raymond Aubrac, et il retrouve les mathématiciens du groupe Bourbaki qu'il avait fréquenté pendant qu'il était professeur, maître de conférence à l'université de Strasbourg. Il reprend avec eux ses discussions sur le fondement des mathématiques. Par ailleurs, et en même temps, il rencontre Emmanuel d'Astier de la Vigerie, qui venait de fonder le groupe anti-vigiste La Dernière Colonne avec le commandant Édouard Corniglion Molinier. Cavaillès, Lucie Aubrac et d'Astier de la Vigerie décident d'étendre l'action de La Dernière Colonne en essayant de recruter parmi les journalistes, parmi les universitaires et parmi les syndicalistes. Ils créent un journal. Cavaillès lui donne un nom, Libération. Et il en rédige le premier éditorial. Il doit partir en zone nord bientôt et il est reçu alors par René Parodi, Christian Pinault et d'autres personnalités, notamment syndicalistes, comme s'il était un représentant de Libération Sud. Il devient en fait un représentant de Libération Sud. Il songe à cette époque à constituer une armée secrète. Il expose son projet à ses amis, son projet d'organiser un réseau clandestin et cloisonné en main. En main, ça veut dire tout simplement cloisonné en groupe d'au plus 5 personnes de manière à éviter ou limiter la catastrophe en cas d'arrestation de l'un d'entre eux. En septembre 40, Cavaillès est nommé professeur de logique à la Sorbonne. Et donc, il rejoint Paris. Là, il s'emploie à créer une édition du journal Libération pour la zone nord. Il faut dire que Cavaillès est favorable à l'action directe, tandis que la majorité des résistants sont soit opposés aux actes terroristes, comme Jean Moulin, alias Rex, soit très réticents, comme les socialistes. La plupart des résistants sont favorables à la définition d'un projet politique à long terme qui engloberait la préparation du premier gouvernement d'après la guerre. Alors Cavaillès ne songeait pas du tout au premier gouvernement d'après la guerre. En 1942, il est chargé par le colonel Passy, c'est-à-dire André de Vavrin, de créer un réseau de renseignement pour la zone occupée. Ce sera le réseau qui aura pour nom Cohors. Désormais, Cavaillès transmet à Londres, au BCRA, c'est-à-dire au Bureau central de renseignement et d'action, c'est-à-dire au service secret de la France libre, dirigé par le colonel Passy auprès du général de Gaulle, les comptes rendus chiffrés des sabotages, des relevés d'actes de collaboration et la position de cible potentielle qu'il désigne. La couverture de professeur en Sorbonne est efficace, malheureusement pas pour très longtemps. Le projet d'un voyage à Londres avec Christian Pinault avorte car les deux compagnons sont arrêtés par la police française et transférés au camp de Saint-Paul-des-Jeaux. Au cours du transfert, Christian Pinault sans en avertir Cavaillès, s'évade. Après un emprisonnement de quelques mois que Cavaillès met à profit pour travailler à son écrit posthume, il s'évade à son tour au mois de décembre 1942. Désormais, il entre dans la clandestinité. Le 24 mars 1943, il arrive à Londres où il est accueilli par Raymond Aron. Il est aussi reçu par le général de Gaulle et obtient l'autonomie financière de son réseau Cohorse, à condition de séparer l'activité de renseignement de l'action militaire. De retour à Paris, à la tête du réseau Cohorse, Cavaillès est menacé et bientôt carrément traqué suite à la trahison d'un membre du réseau Cohorse. Témoin des désaccords qui font obstacle à l'unification des mouvements de la résistance, Cavaillès démissionne du comité directeur de libération pour se consacrer entièrement à l'action militaire. En même temps, il continue à travailler à son livre. En juin 1943, il s'attaque lui-même aux installations de la Kriegsmarine à Lorient et à sa sœur qui commence à s'inquiéter sérieusement pour lui, il répond « Là où se trouve le danger, là aussi doit être le chef. » Après l'arrestation de Caluire, il est sollicité pour certaines fonctions politiques, peut-être pour remplacer Jean Moulin, peut-être. De toute façon, il refuse catégoriquement. Cavaillès était un chef, mais pas un homme de pouvoir. Un chef exécutant, un philosophe terroriste, a écrit Georges Canguilhem. Le 28 août 1943, Cavaillès est arrêté en même temps que sa sœur Gabrielle et son beau-frère, qui était le chef des renseignements économiques du réseau Cohorse. L'arrestation est effectuée par le service de contre-espionnage de l'armée allemande en France. À la prison de Fresnes, où ils sont tous les trois, il est torturé et mis au secret, mais il ne parle pas. Il est libéré mi-octobre, dans le dessein d'organiser une filature, puis il est repris mi-novembre 1943. Les Allemands ont appris entre-temps que Marty, Hervé, Chenevière, Carrière et Carpentier sont en fait une seule et même personne, Jean Cavaillès de son vrai nom. Lors des interrogatoires, Cavaillès ne donne aucun nom et s'attribue les actes qu'on lui mentionne. Il se permet même d'évoquer devant ses tortionnaires Emmanuel Kant et Beethoven, des esprits des Lumières. En janvier 1944, il est conduit à Compiègne pour être transféré à Buchenwald. Mais de nouveaux recoupements ont permis aux Allemands de comprendre que le Daniel qu'ils cherchaient n'est autre que Marty, Hervé, Chenevière et les autres. Le sort de Cavaillès est scellé. Il est transféré à Amiens, puis à Arras. L'intervention de personnalités parmi lesquelles Gaston Bachelard, Louis de Broglie, prix Nobel de physique, Jérôme Carcopino, vichiste et directeur de l'école normale supérieure à laquelle appartient Cavaillès, cette intervention reste vaine. Le 4 avril 1944, Cavaillès est jugé par un tribunal militaire allemand, fusillé et enterré dans la citadelle d'Arras. Après la libération, en octobre 1944, sa dépouille est ramenée au cimetière de la ville. Anonyme, elle est étiquetée dans les registres de la mairie, inconnue, numéro 5. En juin 1945, l'inconnu numéro 5 est reconnu par sa sœur Gabrielle, accompagnée par Raymond Aubrac, grâce aux photos de ses parents conservées dans le portefeuille abîmé mais quand même retrouvé sur le corps. Le 8 juin 1946, la dépouille de Jean Cavaillès est transférée avec celle de 11 autres universitaires dans la crypte de la chapelle de la Sorbonne. Je terminerai par cette réflexion de son ami Georges Canguilhem. Canguilhem écrit « J'ai souvent pensé qu'on aurait pu trouver, si on l'avait cherché, une épitaphe plus émouvante pour un philosophe mathématicien. 5. La somme pythagoricienne du premier pair et du premier impair est l'inconnu. Cette limite de la pensée que la philosophie tantôt exalte, tantôt exorcise, alors que la mathématique la réduit calmement par le calcul. »